Bonjour, Madame Ham.
Bonjour.
Nouvellement élue pour un troisième mandat, j'ai envie de vous demander d'abord comment on aborde ce troisième mandat.
Bien, avec beaucoup d'enthousiasme et d'expérience, donc c'est un mélange intéressant parce que quand on commence en politique, on a beaucoup d'enthousiasme, mais pas nécessairement l'expérience. Et puis avec le sentiment que ça va être un mandat vraiment intéressant parce que je vais pouvoir terminer beaucoup de grands chantiers et puis finir en beauté.
Et ben, justement, parlons-en de ces fameux chantiers. Quelles sont vos priorités d'abord pour au cours des prochains mois?
Bien, au cours des prochains mois, ça va être de prendre une décision au niveau de la rue principale, entre autres. On a refait nos devoirs. Ça chemine très bien. On va être capable de faire un projet qui correspond à ce qu'on avait imaginé, mais qui rentre dans le cadre budgétaire qu'on s'était donné. Donc ça va être un projet que je vais vouloir qu'on prenne une décision rapidement pour qu'on puisse faire les travaux en 2019. Il y a aussi la Maison-Marie qui est en transformation actuellement, qu'on espère ouvrir au printemps. La caserne qui est en construction, qu'on espère ouvrir en 2018 aussi. Des chantiers qui sont peut-être moins « sexy », entre guillemets, mais l'usine d'épuration du secteur Omerville, mais qui est vraiment important parce que c'est un secteur qui va nous permettre de faire des développements pour les familles puis qui est très prisé. Actuellement, il y a un moratoire parce que l'usine est à sa pleine capacité. Donc, il y a tous ces chantiers-là qui s'en viennent au niveau de la municipalité, mais c'est aussi, je dirais, au niveau provincial, un beau moment pour faire de la politique. Avis aux intéressés, c'est un beau moment, je trouve, pour faire de la politique avec notre reconnaissance en tant que gouvernement de proximité. Il y a des belles choses qui se passent, ça change, c'est en transformation. Donc, c'est vraiment, vraiment très agréable.
Donc, une latitude que vous avez maintenant qu'on n'avait pas à une certaine époque.
Oui, puis qui n'est pas encore complètement, il y a encore du travail à faire. Il y a des oui. réflexes à changer dans les différents ministères, tout ça. Mais on sent vraiment une volonté politique de faire ce changement-là. Puis on est assis à plusieurs tables avec les différents paliers de gouvernement à travailler des enjeux qui touchent les municipalités. Puis ça aussi, pour moi, c'est quand même, je dirais, je trouve que dans l'histoire, c'est relativement nouveau. Prenons l'exemple de la sécurité ferroviaire. Mm-hmm. On n'a pas eu le choix de s'asseoir tous les trois paliers ensemble parce qu'il y a des enjeux qui sont provincial, fédéral et municipal là-dedans. On a vraiment réussi à faire un plan d'action où chaque palier de gouvernement est interpellé. Puis là, j'ai mis le même souhait là, au niveau du logement abordable, entre autres. Là. Il y a eu des belles annonces, mais il faut travailler tout ensemble. Puis là, il y a aussi la question de la législation du cannabis aussi, oui. où on dit, écoutez, je pense que vous avez oublié un partenaire à table. Mais je pense qu'on est en train de changer ces réflexes-là. Puis c'est important qu'on soit assis là, parce que sur le terrain, c'est chez nous que ça se passe. C'est dans nos municipalités.
Effectivement. Et vous avez fait allusion à un bon nombre de projets d'envergure qui devraient se concrétiser possiblement au cours de la prochaine année. Évidemment, on a fait quand même beaucoup d'efforts pour limiter l'impact sur le compte de taxes pour la prochaine année, mais force est de constater quand même qu'il y en a un tout de même.
Oui, puis ça avait été annoncé, on ne s'est jamais caché. Quand on a pris la décision il y a un an et demi, à peu près, d'améliorer notre service incendie, on avait eu des gros incendies, puis on avait fait un bilan, puis franchement, on avait un service qui n'était pas à la hauteur pour une ville de la taille de Magog et qui nécessitait qu'on fasse un changement important. Donc, on avait bien avisé que ça aurait un impact sur le compte de taxes. Quand on a commencé à travailler le budget, le compte de taxes se chiffrait à 7-8%. Alors, on a réussi à le limiter à 3,85 puis 3,45. Il reste que c'est jamais agréable d'annoncer des hausses de taxes, on s'entend, plus que l'inflation, parce que nous autres, on vise toujours l'inflation habituellement. Mais on n'avait pas le choix, c'était un coup à donner là, pour la sécurité. Puis les gens comprennent bien là, que c'est pour la sécurité, je pense que les gens vont se rallier. C'est pas pour les grands projets, contrairement à ce que certains ont voulu véhiculer pendant la campagne électorale. Là, ça n'a rien à voir avec les grands chantiers, cet impact-là.
Et en même temps, en fait, vous avez soulevé la question du déneigement aussi pour expliquer cette hausse du compte de taxes. Vous n'êtes pas la seule municipalité qui est confrontée quand même à cette réalité-là. On se retrouve avec moins de soumissionnaires et des montants qui sont quand même plus élevés.
Oui, effectivement, on constate qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du déneigement. Il y a moins d'entreprises, moins de soumissionnaires. Et là, en plus, nous, on était vraiment à dernière minute cette année parce qu'on a perdu un fournisseur. Ça nous a pas donné le temps là, de retourner en appel d'offres ou de négocier. On avait moins de temps. Dans ce temps-là, les cahiers de charges sont plus remplis aussi du côté des entrepreneurs. Mais une fois qu'on a dit ça, nous, on a quand même, au cours des 5 dernières années, sauvé 650 000 par année avec notre nouvelle politique de viabilité hivernale. Fait que oui, cette année, année, c'est un demi-million de plus, puis on souhaitait pas ça. Puis ça a un impact de 1 point quelques % sur le compte de taxes. Mais on a quand même sauvé beaucoup d'argent dans les 5 dernières années et on va se donner le temps là, de réfléchir à une nouvelle stratégie. On va même revenir à réfléchir sur combien de plus de kilomètres on peut faire en régie interne, par exemple.
Parlons de développement économique. Je me trompe pas, je pense, quand si je dis que c'est votre cheval de bataille depuis que vous êtes à la mairie de Magog. Si on parle, en fait, de développement économique, on sait qu'il y a beaucoup de gestes concrets qui ont été faits ces dernières années et ça semble porter fruit. Il semble y avoir une certaine effervescence à Magog. On constate avec, entre autres, Magog Technopole, le travail qui est fait, avec aussi le pôle industriel 1055. On sait qu'il y a de nouveaux terrains qui sont accessibles pour des entreprises qui souhaitent s'établir aussi à Magog.
Oui, effectivement, c'est le fun. Vous connaissez bien les dossiers de Magog. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent du pôle industriel 1055. Effectivement, j'ai été élue dans un contexte économique difficile et c'était notre souhait de diversifier, de relancer l'économie. Et ça va très bien dans plusieurs secteurs d'activité. Le taux de chômage, on peut dire qu'on a le plein emploi. Cela dit, ça amène une autre problématique qui est la main-d'œuvre. Alors, ça fera partie là, de nos priorités pour la prochaine année, l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre, mais on va continuer aussi à mettre nos efforts en développement économique dans toutes les différentes sphères d'activité. Il y a l'exemple du Montford aussi. Le tourisme, c'est hyper important pour nous. Juste le Montford, c'est 25-30 millions de retombées économiques. On a réussi non seulement à sauver la station, à la redresser, à la rendre rentable, et là, on s'embarque dans un plan de développement de cette station touristique-là. Donc, il y a vraiment des belles choses qui se passent. On a réussi à reprendre un bel élan. Je suis très confiante pour les prochaines années.
Il y a aussi eu cette sortie dernièrement du ministre responsable de la région de l'Estrie, Luc Fortin, qui disait il faut qu'il y ait davantage de concertation entre les municipalités, alors qu'il semble parfois y avoir une certaine concurrence entre Sherbrooke et Magog sur certains dossiers. Il faisait allusion notamment au dossier Ubisoft. Est-ce que vous pensez justement qu'on devrait tisser davantage de liens entre Sherbrooke et Magog pour le développement économique?
Oui, et on a déjà des belles collaborations, entre autres, avec l'Université de Sherbrooke, la CET, Espace Inc., qui est un incubateur. Il faut changer nos façons de faire parce que, historiquement, les villes étaient toutes en compétition l'une avec l'autre. Maintenant, c'est souvent des régions, quand c'est pas la province, qui est en compétition. Donc oui, c'est important. Cela dit, ça prend du temps à mettre en place, puis il faut changer les façons de travailler. Puis malheureusement, il y a des dossiers qui vont demeurer confidentiels. Dans le cas d'Ubisoft, par exemple, on savait même pas qu'ils courtisaient Sherbrooke en même temps que nous. Et c'est un dossier qu'on nous a demandé de garder confidentiel. Alors, ça aurait été difficile d'attacher une offre conjointe. Mais en amont, travailler ensemble au niveau de la formation, de l'incubation, ou même de faire front commun pour faire de l'attraction quand on va aller faire de la prospection. Nous autres, on est très, très, très ouverts à ça ici à Magog.
Un mot peut-être sur le complexe de Deux Glaces qui doit voir le jour en 2019. Il faudra quand même être patient encore, mais il y a des étapes qui seront franchies dans ce dossier au cours de la prochaine année.
Oui, il y a des gens qui sont au travail en ce moment de façon très active. Il y a des subventions qui ont été annoncées là, pour ce genre d'infrastructure-là. Entre autres, l'ancien conseiller municipal Jean-Guy Gingras va rester très impliqué dans ce dossier-là à titre de bénévole. Donc, c'est lui qui avait beaucoup travaillé dans les dernières années. On espère pouvoir faire des annonces bientôt. En tout cas, du moins, présenter au conseil l'option finale, parce qu'on avait dit si on allait chercher au moins 50% du financement, c'était un projet qui était assez facile à lever.
Un mot sur le train Montréal-Sherbrooke, projet de train Montréal-Sherbrooke. Il y a eu au cours des derniers jours de François Rebello, qui le promoteur du projet, qui disait que il y a des discussions avec Magog qui sont en cours concernant une possible gare de transbordement. C'est un projet qui vous tient à cœur?
Oui, ça fait plus d'un an qu'on travaille ce projet-là, secrètement, je dirais, parce que on voulait pas non plus créer de faux espoirs, entre autres pour les citoyens du secteur Venise là, qui sont aux prises avec beaucoup de wagons stationnés là, dans la voie d'évitement. Mais on travaille une solution avec plusieurs partenaires parce que c'est une problématique pour plusieurs. Donc, on pense que cette solution-là viendrait non seulement régler des irritants, pour tout le monde. Donc, beaucoup de gens peuvent être intéressés. Mais également, ce serait un service à offrir à nos industriels. Puis, on en a sondé plusieurs qui seraient intéressés parce que le camionnage est de plus en plus dispendieux pour recevoir leurs matières premières ou encore pour la livraison de certains produits finis. Donc, ça pourrait vraiment être intéressant là, d'avoir cet outil-là. Puis, on a déjà la voie ferrée dans le parc industriel. Il y a déjà des entreprises qui ont des dessertes. C'est pas quelque chose qui est très compliqué. C'est coûteux. Mais si on est plusieurs partenaires, je pense que puis tout le monde serait gagnant. Ça peut être vraiment intéressant.
Et en terminant, Madame Hamm, est-ce que vous avez déjà mentionné en fait que vous aviez quand même un certain intérêt pour la politique provinciale. Est-ce que avec ce troisième mandat à la tête de la mairie de Magog, est-ce que on peut dire que c'est peut-être un projet qui disons sur la glace là, pour une quelques années ou?
En fait, pour répondre clairement à votre question qui était un peu subtile. Oui, j'ai de l'intérêt pour le provincial. J'ai un grand intérêt pour le provincial, mais non, ce ne sera pas pour les élections de 2018 parce que j'ai encore du travail à terminer ici.
D'accord. Bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Madame Hamm. Je vous souhaite de joyeuses fêtes puis une bonne année 2018.
Parfait. Merci beaucoup.